L'homme se déplace toujours dans l'espace et le temps. Et sur cette voie, heureux sont ceux qui, comme le disait le prophète de l'islam, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, sont inondés par la lumière divine. Ceux dont le Seigneur les a gratifiés dans son immense mansuétude. L'espace et le temps sont intimement liés, il est donc vrai que la géographie et l'histoire personnifier des élites qui construisent la cour de Dieu. Et ces points culminants de l'histoire est l'incarnation de la géographie. Les élus de la cour divine bâtissent les jours de Dieu. Et ce sont ces plaques tournantes de l'histoire qui revalorisent la géographie. Et lorsque le pèlerin pose les pieds dans ces lieux, il prête serment d'allégeance aux messagers de Dieu. Sinon aucune terre ne prime sur les autres, et l'important est que certains hauts lieux de l'islam portent le nom du temps, dont Miqat en est l'exemple. La terre de Hejaz n'échappe pas à cette règle. En apparence, il est plus aride et plus pauvre que la plupart des terres. Un désert brûlant où les êtres vivants ont moins de chances à survivre. Alors, quel est le secret de tant de sainteté? Et comment cela se fait-il que depuis des centaines et même des milliers d'années, des pèlerins y accourent de tous les coins du monde? Pour découvrir ce secret, il n'y a pas de solution que d'y aller et de marcher sur les traces du sceau des prophètes afin que les voiles de la lumière s'écartent de notre regard et qu'on puisse atteindre cette source intarissable de grandeur. Ici, c'est la Mecque, et lorsqu'on a traversé les labyrinthes montagneux de la ville, dans le point le plus bas de la ville s'érige la mosquée d'Al-Ahram. Signe du fait que plus on descend des hauteurs, des apparences, on se rapproche de Dieu. C'est pour cela que la meilleure position pour se rapprocher de Dieu est de se prosterner. Finalement, on arrive à cette construction cubique, austère et simple, sans signe ni direction du nom de Kaaba, vers lequel se retournent les musulmans dans la vie comme dans la mort. Et d'une simplicité étonnante, surtout qu'à quelques kilomètres se dressent des maisons et les buildings. Le secret de cette simplicité est que la Kaaba n'a d'autre signe que celui du Seigneur le Très-Haut. C'est pour cela qu'on ne se dirige pas vers ce point, mais qu'on tourne autour et on fait la circumambulation. Seul au moment de la prière, on se tourne tous vers le Kaaba. Et nous nous prosternons devant son unicité, car la Kaaba est le symbole de l'unité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la maison de Dieu est la seule dans le monde à être voilée? Le Hajj est la plus belle pièce de théâtre, et à chaque étape, les pèlerins jouent tour à tour le rôle de l'un des amis de Dieu. Tour à tour, ils deviennent Abraham, font l'effort de Hagar et cherchent Ismaël. C'est pour cette raison qu'on dit que le Hajj est dans l'acte ce qu'on exprime le Coran dans le verbe. fil du temps, la cérémonie monothéiste du Hajj avait été oubliée et seule une version déformée existait. Jusqu'en 570 après Jésus-Christ, à l'année d'éléphant, un lieu où se trouve aujourd'hui une bibliothèque, le Makatayeb de la Sainte Mecque. Enfant appelé Ibrahim est venu au monde. Il a ouvert ses yeux sur la place vide du Père en regardant vers Beit al-Haram. La Kaaba, qui était alors une pagode renfermant 360 idoles représentant les 360 tribus importantes de la péninsule arabique qui attendaient impatiemment la croissance de son nouveau-né pour qu'il détruise de ses mains les idoles. Et lui, qui était l'aimé de Dieu, a été nommé Mohammed grâce à la clémence divine. Comme les autres enfants arabes, l'enfance de Mohammed s'est passée dans le désert et l'oasis. Il était de tradition dans la famille de Quraysh d'envoyer les enfants dans la profondeur de la nature sauvage pour leur donner une leçon de probité et de courage. Muhammad n'avait que 6 ans lorsque sa mère Aménée, de retour de Yathrib, est décédée et a rejoint son mari et quittant le monde d'ici-bas pour l'au-delà. Depuis, Abdul Muttalib a accepté la responsabilité de Muhammad, qui était le seul souvenir de son fils Abdullah. Mais peu de temps après, il a lui aussi rejoint Dieu, et cette responsabilité a été conférée à son autre fils Abu Talib. Il a protégé son valeureux neveu jusqu'à la mort et a été enterré près de son père dans ce cimetière appelé Qunut. Peu de temps après, Mohammed est devenu un jeune homme avec par-dessus tout un bon caractère, célèbre pour sa probité indéfectible et sa grande sagesse. L'un des exemples est lors de l'installation de la pierre noire d'Al-Aswad, lors de la reconstruction du Kaaba après les dégâts engendrés par les inondations de la Mecque. En son absence, cet événement aurait été la source d'affrontements sanglants. Et seule son intelligence a aidé à résoudre ce problème, accepté par les chefs des tribus. Et en tant que représentant des tribus, Muhammad a mis cette pierre à sa place. Pierre d'Abu Talib est un souvenir de l'une des femmes les plus brillantes de l'histoire de l'humanité, Khadija. La femme vertueuse qui était la plus resplendissante des femmes de Quraysh. Avec son sens du commerce, elle a pris très vite conscience des vertus de Muhammad et lui a confié toute sa richesse terrestre en contrepartie d'une place éternelle près de Marie et Aïcha au paradis. En réalité, quel commerce bénéfique! Plus tard, dans la géographie de la Sainte Mecque, on atteint Jabali al-Nur, une montagne qui domine la ville et témoin d'un des événements les plus importants de l'histoire. Cette brisure qu'on appelle la grotte de Hara a été témoin de nombreuses nuits, des prières et des incantations de Mohammed avec son seul Dieu, et après un quart de sa vie, il a eu la capacité de comprendre la parole de Dieu. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme du sang coagulé. Lis ton Seigneur est le tout miséricordieux. Il a enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Avec l'appel du prophète après 3 ans, les musulmans ont fait face à des conditions très difficiles, car la société n'acceptait pas le monothéisme et n'acceptait pas d'égal à son chef, tout en considérant que cela mettait en danger ses intérêts. C'est pourquoi, après qu'ils n'ont pas réussi à acheter le prophète, Abu Talib n'a pas non plus cessé de défendre ce dernier. Quraysh a décidé de boycotter Bani Hashim et tout commerce a été coupé avec eux. La proposition du prophète pour alléger les souffrances était de les mettre entre les mains d'Abu Talib. Mais les pressions duraient 3 ans et sans arriver à un résultat. Et peu après, il a perdu le soutien de ces deux importantes personnes, Abu Talib et Khadija. Finalement, avec la permission de Dieu et sous la pression de l'opinion publique de la péninsule arabique sur la famille Quraysh, les sanctions ont été levées. Mais avec la mort du grand de Bani Hashim, les offenses à l'encontre du prophète se sont intensifiées. Le messager qui avait perdu tout espoir chez les Mekois décida de se rendre chez Bani Tarif à Taif, une région avec un climat doux et agréable près de la Mecque. Le prophète a passé 50 jours dans cette ville où il s'est attelé à guider les notables grands et la population de cette région vers le salut. Mais les tribus ont rejeté son appel à la miséricorde à coups de pierre, laissant de nombreux stigmates sur son corps béni, mais aussi sur son âme, de sorte qu'il parle avec l'amertume de ses jours. L'unique bon souvenir est la conversion à l'islam d'Ada. Cet esclave chrétien est Naniv qui a accepté l'islam avec quelques gorgées d'eau et un peu de raisin que le prophète lui a donné en invoquant Dieu, et il a été guidé dans le monde comme dans l'éternité. Aujourd'hui, une vieille mosquée rappelle ce beau souvenir, bien qu'il soit médiocre face aux autres mosquées impressionnantes de cette ville, telles que la mosquée Abdallah ben Abbasi, le cousin savant du prophète. Harassé, le cœur brisé, le prophète rentra de Taif et à court d'arguments, il n'avait plus de raison pour rester. Le complot de Dar Notfa était en train de se concocter et la nuit de Mabit de Ali était en route ainsi que le voyage du prophète. Une courte pause du prophète dans la grotte de Tour, dans le sud de la Mecque, n'a pas pu dérouter les incrédules et a préparé une occasion pour se diriger vers Yathrib dans le nord. Mais grâce à un miracle divin, une toile d'araignée prépara un refuge sûr pour l'aimé de Dieu, le mettant à l'abri des voleurs de nuit. 13 ans découlent depuis l'avènement de Mohammed à la mission prophétique, et Yathrib était dans la tente. 2 ou 3 ans après la première rencontre de Yathrib avec le prophète, qui était durant le Hajj, ces lieux, c'est-à-dire la mosquée de Araba, étaient témoins de rencontres chaleureuses avec le prophète. Massab ibn Amir, un jeune homme de Quraysh, dont l'éloquence n'avait égale que sa beauté, a préparé le terrain propice pour que le prophète puisse rester, mais ce dernier, avant d'entrer dans la ville, s'est arrêté quelques jours à Roba. Il avait laissé celui qui était son souffle, c'est-à-dire Ali, à la Mecque afin de s'occuper de ses comptes et qu'il amène Fatima en bonne santé auprès de lui. Comme si sans sa présence le Hijj, l'immigration ne pourrait pas être complète. Alors il a patienté un peu jusqu'à ce que la mosquée soit construite et que les compagnons arrivent. Manière d'enseigner à Yathrib que sans Ali, la ville du prophète ne sera pas complète. Ici, la mosquée de vendredi accueillera le prophète divin avant d'entrer dans la partie principale de la ville de Yathrib, qui a été la place de la première prière du vendredi. Ici, c'est la ville du prophète et cet endroit est la mosquée Al-Nabi, la plus importante pour le monde de l'islam après celle de la Sainte Mosquée. Ici, pour la première fois, a retenti le chant de Azan ou l'appel à la prière, annoncé par Bilal, un appel qui se répercute après 14 siècles tous les matins et soirs dans le monde entier pour appeler les gens au meilleur acte. Chaque coin de cette mosquée s'exhale le parfum exquis de l'aimé de Dieu, l'arc du Mambar, les colonnes et la maison du prophète qui juxtapose la maison de Zahra et démontre cette relation inséparable. La vieille partie de la mosquée du prophète est actuellement reconnaissable par les tapis verts qui le recouvrent. Le lieu où les fidèles rivalisent à qui se prosterner le premier et accomplir la prière, les yeux pleins de larmes. Ils traversent de part et d'autre les lieux à la recherche de la tombe bénie de la vénérée fille du prophète. La mosquée du prophète était témoin du premier pacte de fraternité entre les immigrants et les compagnons et qui renferme la première loi dans la constitution de l'islam afin que Médine soit le foyer de l'amour, de la paix et des droits des musulmans. Bien que les mécréants et les impies n'apprécient guère ce genre de démarche. Étant donné que les tribus juives sentaient leur position en danger face aux habitants de Médine, ils ont commencé les hostilités prétendant que Mohammed n'a pas de place vers lequel se tourner pour prier son Dieu. Il accomplit la prière dans la direction de Roth. 17 mois après, Dieu a redonné joie au cœur du prophète et de ses compagnons en leur présentant la maison de Dieu et la Kaaba, comme la Qibla de cet événement grandiose, s'est déroulée à cet endroit. Et c'est pour cette raison que cette mosquée est appelée Zour Qiblatin, c'est-à-dire à deux Qibla. C'est pour rappeler qu'hormis la belle Qibla principale, il y a aussi un autre dirigé dans le sens inverse, c'est-à-dire la mosquée d'Al-Aqsa. Qui était de loin témoin de la construction perpétuelle des lobes de l'islam et qui ressentait du danger pour ses caravanes commerciales durant la nuit, a concocté des complots contre les musulmans qui ont entraîné la guerre de Badr durant la deuxième année du calendrier de l'Hégire. Ici et près des puits de Badr, étaient les lieux des premiers affrontements en grand format de l'armée de l'islam et des mécréants. D'une part, un millier d'hommes bien équipés, de l'autre, 313 hommes avec des moyens les plus rudimentaires mais au cœur ferme comme le fer. Dans ce cimetière reposent les martyrs de cette défense sacrée et leur nom est inscrit sur les pierre, tombale et la mosquée de Harish qui rappelle la présence puissante du prophète et le centre de commandement de ce dernier sur l'armée de l'islam ainsi que le lieu de prière des épris de ce prophète. C'est la mosquée de Dar, dans le nord de Médine, le lieu où le prophète a repris les armes pour se battre à nouveau quelque peu après la guerre de Badr et avoir déjoué le complot du juif Bani Ranga. Cette fois, c'était pour venger la défaite de Badr avec 3000 guerriers avec de meilleurs équipements sont venus pour combattre l'armée de l'islam. En raison des chemins caillouteux dans le sud de Médine, ils n'ont pas pu diriger leur armée vers la ville. Et ils ont donc pris le chemin de la montagne d'Ohod. Dans ces lieux, on voit aujourd'hui le cimetière des martyrs d'Ohod. Ici, c'est le Jabal Ramat, les lieux où se sont installés 50 tireurs à qui le prophète avait confié la responsabilité de défendre les arrières de l'armée islamique de 700 personnes. Mais ils ont abandonné leur position et les ennemis ont pu vaincre les musulmans. C'est ici que Hamza, le prince des 70 martyrs, fidèle du prophète tel que Mousab ibn Omar, premier ambassadeur du prophète, Hanze Qasil al-Malek, Abdullah ibn Jahash et bien d'autres ont été tués en martyrs. Et ici, dans le cœur de la montagne de Hod, une partie fente qui, après la guerre, a été l'abri pour le corps fatigué et blessé de l'aimé de Dieu Ali et ses compagnons. Et aujourd'hui, les pèlerins s'y arrêtent en souvenir de ces jours sacrés et ça donne à la prière en cherchant une occasion nouvelle pour se rappeler de l'histoire de ce voyage.
Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran.
La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله.